à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Il est des écritures qui nous marquent, nous pénètrent pour longtemps. On se souvient et de l'endroit et de l'instant de la lecture. On se rappelle l'humeur du moment. Comme par exemple avec l'écriture de Yasmina Reza et son dernier livre « Babylone » paru chez Flammarion. En voici un extrait. Il est contre un mur, dans la rue, debout un costume cravate. Il a les oreilles décollées, un regard effrayé, des cheveux courts et blancs. Il est maigre, les épaules étroites. Il tient bien visible une revue où on peut lire le mot « Awake ». La légende dit « Jehovah's Witness, Los Angeles ». La photo date de 1955. Il avait l'air d'un garçonnet. Il est mort depuis longtemps. Il s'habillait convenablement pour distribuer ses bulletins religieux. Il était seul, habité par une persévérance triste et hargneuse. À ses pieds, on devine un cartable. On en voit la poignée. Avec dedans les dizaines de bulletins que personne ou presque ne lui prendra. Ce sont aussi ces bulletins imprimés en nombre déraisonnable qui rappellent la mort. Ces élans d'optimisme, trop de verres, trop de chaises, qui nous font multiplier les choses pour les rendre aussitôt vaines. Les choses et nos efforts. Le mur devant lequel il se tient est gigantesque. On le devine à son opacité lourde, à la taille de la pierre prédécoupée. Il doit être toujours là, à Los Angeles. Le reste s'est dissous quelque part. Le petit homme, dans un costume flottant, avec des oreilles en pointe, qui s'était placé devant lui pour distribuer une revue religieuse, sa chemise blanche et sa cravate foncée, son pantalon élimé aux genoux, son cartable, ses exemplaires. Quelle importance ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on va devenir. On est quelque part dans le paysage jusqu'au jour où on n'y est plus. Hier, il pleuvait. J'ai rouvert The Americans de Robert Frank. Il était perdu dans la bibliothèque, coincé dans un rayonnage. J'ai rouvert le livre que je n'avais pas ouvert depuis 40 ans. Je me souvenais du type debout dans une rue qui vendait une revue. La photo est plus granuleuse, plus pâle que prévu. Je voulais revoir The Americans, le livre le plus triste de la Terre. Des morts, des pompes à essence, des gens seuls en chapeau de cow-boy. Quand on tourne les pages, on voit défiler les jukebox, les télés, les objets de la nouvelle prospérité. Ils se tiennent aussi solitaires que l'homme, ses arrivants surdimensionnés, trop lourds, trop lumineux, posés dans des espaces non préparés. Un beau matin, on les enlève. Ils feront encore un petit tour, brinque-ballé jusqu'à la casse. On est quelque part dans le paysage jusqu'au jour où on n'y est plus. Mais revenu le Scopitone du port de Dieppe, on partait en 2 chevaux à 3 heures du matin pour aller voir la mer. Je ne devais pas avoir plus de 17 ans et j'étais amoureuse de Joseph Denner. On roulait à 7 dans la bagnole dont le cul touchait le sol. J'étais la seule fille. Donner conduisait. On fonçait vers Dieppe en buvant de la Valstar rouge. On arrivait à 6 heures sur le port, on entrait dans le premier troquet et on commandait du picon-bière. Il y avait un scorpitone. On avait des crises de fou rire en regardant les chanteurs. Une fois, Denner avait mis le boucher de Fernand Reynaud et on pleurait de rire à cause du sketch et du picon. Puis on rentrait. On était jeunes. On ne savait pas que c'était irréversible. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Je ne pourrais pas dire que j'ai su être heureuse dans la vie. Je ne pourrais pas me donner 14 sur 20 à l'heure de ma mort. Comme ce collège de Pierre qui avait dit « Allez, disons 14 sur 20. Moi, je dirais plutôt 12, parce que moins j'aurais l'impression d'être ingrate ou de blesser. Je dirais 12/20 en trichant. Quand je serai sous terre, qu'est-ce que ça changera? Tout le monde se foutra que j'ai su ou non être heureuse dans la vie. Et moi, je m'en foutrai pas mal. Le jour de mes 60 ans, Jean Lino Manoscrivi m'a invité aux courses à Auteuil. On se rencontrait dans les escaliers, lui et moi montions à pied, moi pour conserver une silhouette potable, lui par phobie des lieux clos. Il était maigre, pas grand, visage grêlé, un long front partant en arrière, coiffé sur le côté avec la fameuse mèche recouvrante des gens chauves. Il portait des lunettes à monture épaisse qui le vieillissaient. Il habitait au 5e, moi, au 4e. Ça nous faisait une petite complicité, ces croisements dans la cage que personne n'empruntait. Dans certains immeubles modernes, la cage d'escalier est indépendante et moche et ne sert qu'aux déménageurs. D'ailleurs, les locataires disent l'escalier de service. Pendant un temps, on ne s'est pas connu vraiment. Je savais qu'il travaillait dans l'électroménager. Il savait que je travaillais à Pasteur, le nom de mon métier. Ingénieur brevet, ne dit rien à personne et je ne cherche plus à l'expliquer de façon attrayante. Une fois, avec Pierre, on avait pris un verre chez eux, entre couples. Sa femme était un genre thérapeute New Age, après avoir géré un magasin de chaussures. Le couple était récent, je veux dire par rapport à nous. En croisant Jean Lino dans notre escalier la veille de mon anniversaire, je lui ai dit « Demain, j'ai 60 ans. » Je traînais des pieds et ça m'était venu comme ça. « Vous n'avez pas encore 60 ans, vous, Jean Lino ?» Il avait répondu « Bientôt. » Je voyais qu'il cherchait à dire un truc gentil, mais il n'osait pas. Au moment où je rejoignais mon palier, j'avais ajouté « C'est fini pour moi, je passe la main. » Il m'a demandé si j'étais déjà allée aux courses. J'ai dit non. En bredouillant, il m'a proposé, si j'étais libre, de le rejoindre le lendemain à Auteuil, à l'heure du déjeuner. Quand je suis arrivée au champ de courses, il était installé au restaurant, collé aux vitres qui dominent le paddock. Sur la table, une bouteille de champagne dans un seau, les journaux du turf étalés, couverts d'annotations, des cacahuètes éparpillées, mêlées à de vieux tickets. Il m'attendait en homme détendu qui reçoit à son club, en total contraste avec ce que je savais de lui. On a bouffé un truc gras de son choix. Il s'exaltait à chaque course, se dressant, rugissant, la fourchette brandie, drainant des lambeaux de poireaux vacillants. Toutes les 5 minutes, il sortait fumer la moitié d'une clope et revenait avec de nouvelles conceptions. Je ne l'avais jamais vu avec cette dimension d'énergie et encore moins de joie. On jouait des sommes insignifiantes pour des chevaux au potentiel méconnu. On les sentait. Il avait ses intimes convictions. Il a un peu gagné, peut-être le prix du champagne. On a bu la bouteille entière, lui en particulier. Moi, j'ai empoché 3 €. Je me suis dit 3 € le jour de tes 60 ans, bon. J'ai compris que Jean Lino Manoscrivi était seul, un type à la Robert Frank d'aujourd'hui. Avec son bic et son journal et surtout son chapeau, il s'était fabriqué un rituel. Il avait isolé dans le temps un espace qui le tenait. Aux courses, il prenait des épaules, même sa voix changeait. Je me suis souvenu des 60 ans de mon père. On avait mangé une choucroute à la République, c'était l'âge qu'avaient les parents. Un âge immense et abstrait. Maintenant, c'est toi qui l'as. Comment est-ce possible? Une fille fait les 400 coups, se trimballe dans la vie, jugée et peinturlurée, et tout à coup se met à avoir 60 ans. Je partais faire des photos avec Joseph Denner. Il aimait les photos, et j'aimais tout ce qu'il aimait. Je séchais mes cours de bio, on n'avait pas peur de l'avenir dans ces années. Un oncle m'avait offert un Konica d'occasion. Ça faisait pro, d'autant que j'avais dégoté une bretelle Nikon. Lui avait un Olympus qui n'était pas réflexe, on faisait le point avec un télémètre incorporé. Le jeu, c'était de prendre le même sujet, même moment, même endroit, et de faire chacun notre image. On shootait la rue comme les grands qu'on admirait, les promeneurs et les bêtes du jardin des plantes à côté de la fac, mais surtout l'intérieur des troquets du pont Cardinet qu'affectionnait Denner. Les types en rade, les piliers momifiés dans des boxes à l'arrière, on tirait les planches contact chez un copain, on comparait et on élisait la bonne pour l'agrandissement. C'était quoi la bonne? La mieux cadrée? Celle qui révélait une interaction infime et insondable? Qui peut répondre? Je pense régulièrement à Joseph Denner. Parfois, je me demande ce qu'il serait devenu. Mais qu'est-ce qu'un type qui meurt d'une cirrhose du foie à 36 ans aurait pu devenir? Depuis les événements, il s'est comme réinventé dans ma tête. Ça l'aurait bien fait rire, cette petite histoire. The Americans m'a remis des images de jeunesse. On rêvait, on ne faisait rien. On regardait les gens passer, on décrivait leur vie et à quel objet ils ressemblaient, maillets, pansements. On riait. Par-dessus le rire, on ressentait un ennui un peu amer. J'aurais bien aimé les revoir, ces photos du pont Cardinet. On a dit les jeter un jour avec des vieux papiers. Après l'anniversaire à Auteuil, je me suis prise d'affection pour Jean Lino Manoscrivi. Il sortait de l'immeuble pour faire quelques pas dehors et on prenait un café au coin si l'occasion se présentait. Dehors, il avait le droit de fumer, chez lui, non. Je le percevais comme le plus doux des hommes et je le vois encore de cette façon. Il n'y a jamais eu de familiarité entre nous et on s'est toujours vouvoyé. Mais on parlait. On se disait parfois des choses qu'on ne disait pas aux autres, surtout lui. Mais ça pouvait m'arriver aussi. On s'était découvert la même aversion pour notre propre enfance, le même désir de l'effacer d'un trait noir. Un jour, évoquant son parcours sur Terre, il avait dit de toute façon le plus dur est fait. J'étais d'accord. Jean Lino était le petit-fils d'émigrés juifs italiens du côté paternel. Son père avait commencé comme homme à tout faire dans un atelier de passementerie. Ensuite, il s'était spécialisé dans les rubans, jusqu'à ouvrir une mercerie dans les années 60. Un boyau avenue Parmentier. Sa mère tenait la caisse. Ils habitaient un fond de cour à deux pas du magasin. Les parents travaillaient dur et n'étaient pas tendres. Jean Lino ne s'étendait pas sur le sujet. Il avait un frère, beaucoup plus âgé que lui, qui avait réussi dans la confection. Lui partait en vrille, sa mère l'avait viré de la maison. Il avait démarré en cuisine après un CAP de pâtisserie. À l'heure la plus optimiste de sa vie, il s'était lancé dans la restauration. C'était dur, pas de vacances, pas assez de chiffres. Pour finir, Pôle emploi avait financé une formation dans la grande distribution et une association intermédiaire l'avait placé chez Gouli, où il s'occupait de l'après-vente électroménager. Il n'avait pas eu d'enfant. C'était le seul reproche qu'il osait faire aux puissances qui avaient gouverné son existence.
Welcome to Couleur FM.
À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Un écrivain connu symbolisant la lutte pour la liberté d'expression et contre l'obscurantisme religieux. Voici un extrait du dernier roman de Salman Rushdie, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, traduit par Gérard Medal aux éditions Actes Sud. On sait très peu de choses, même si on a beaucoup écrit à ce sujet, de la nature véritable des djinns. Ces créatures faites de feu sans fumée. Sont-ils bons ou mauvais, diaboliques ou bienfaisants? Cela fait l'objet d'âpres discussions. Ce que l'on admet généralement, ce sont les caractéristiques suivantes. Ils sont fantasques, capricieux, impudiques. Ils se déplacent très vite, changent de taille et de forme et réalisent bon nombre de vœux des mortels, hommes et femmes, qu'ils en décident ainsi ou s'y trouvent contraints. Et leur perception du temps est radicalement différente de celle des êtres humains. Il convient de ne pas les confondre avec les anges, même si certains récits anciens affirment à tort que le diable en personne, l'ange déchu, Lucifer, fils du matin, fut le plus grand des djinns. L'endroit où ils vivent a aussi fait longtemps l'objet de controverses. Certains récits antiques prétendent de manière calomnieuse que les djinns vivent ici, parmi nous, sur Terre, ce prétendu bas-monde, dans des bâtiments en ruine et de nombreuses zones insalubres, décharges, cimetières, latrines, égouts, et chaque fois que c'est possible, dans des tas de fumier. Si l'on en croit ces histoires diffamatoires, on ferait bien de se laver très soigneusement après le moindre contact avec un djinn. Ils sont malodorants et transmettent des maladies. Cependant, les exégètes les plus éminents affirment depuis longtemps ce qu'à présent nous tenons pour vrai. Les djinns vivent dans leur propre monde, séparés du nôtre par un voile, et ce monde supérieur, parfois appelé péristan ou monde magique, est très vaste, même si sa nature demeure pour nous mystérieuse. Dire que les djinns sont inhumains revient, semble-t-il, à énoncer une évidence. Cependant, les humains ont au moins certaines caractéristiques en commun avec leurs homologues fantastiques. En matière de foi, par exemple, il existe chez les djinns des tenants de toutes les croyances qui ont cours sur Terre et des incroyants pour qui la notion de Dieu et d'ange est aussi étrange que l'est l'existence des djinns pour les humains. Et même si de nombreux djinns sont amoureux, il en est au moins certain parmi ces êtres tout-puissants pour connaître parfaitement la différence entre le bien et le mal, entre la voie lumineuse et la voie obscure. Il y a des djinns qui volent, tandis que d'autres rampent au sol, sous la forme de serpents, ou bien courent çà et là en aboyant et en montrant les crocs sous l'apparence de chiens géants. Dans la mer et parfois aussi dans les airs, ils prennent l'aspect de dragons. Certains djinns inférieurs sont incapables, lorsqu'ils se trouvent sur terre, de conserver longtemps leur apparence. Ces créatures amorphes se glissent parfois à l'intérieur des humains par les oreilles, le nez ou les yeux, et ils occupent leur corps pendant un moment avant de s'en débarrasser, tant ils sont fatigués d'eux. Ce à quoi, malheureusement, les humains qui ont été occupés ne survivent pas. Les djinns femelles, les djinnia ou ghouls, sont encore plus mystérieuses, encore plus subtiles et plus difficiles à comprendre, puisqu'elles sont des femmes ombres, faites de fumée sans feu. Il existe des djinnia sauvages et des djinnia aimantes, mais il se pourrait bien que ces deux sortes différentes de djinnia ne soient en fait qu'une seule et même espèce, qu'un esprit belliqueux puisse être adouci par l'amour et qu'une créature affectueuse, quand elle est maltraitée, puisse s'élever jusqu'à un degré de sauvagerie qui dépasse l'entendement des mortels. Voici donc l'histoire d'une djinnia, une grande princesse du peuple des djinns, connue sous le nom de princesse de la foudre, parce qu'elle maîtrisait le tonnerre qui aima un mortel il y a bien longtemps, au XIIe siècle, comme nous allons le raconter, et de ses nombreux descendants, de son retour dans notre monde après une longue absence où elle tomba de nouveau amoureuse, du moins un certain temps, avant de partir en guerre. C'est aussi l'histoire de nombreux autres djinns, mâles et femelles, certains qui volaient et rampaient, des bons et des méchants, et d'autres qui étaient étrangers à toute morale. Et c'est enfin l'histoire de cette période de crise, de cette époque chaotique que nous appelons le temps des étrangetés, laquelle dura 2 ans, 8 mois et 28 nuits, c'est-à-dire 1000 nuits plus une. Et s'il est vrai que nous avons vécu un autre millénaire depuis cette époque, nous sommes tous à jamais transformés par ces temps-là. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est à notre avenir d'en décider. En l'an 1195, le grand philosophe Ibn Rushd, autrefois cadi ou juge de Séville, est devenu depuis peu le médecin personnel du calife Abou Youssouf Yacoub dans sa ville natale de Cordoue, fut officiellement discrédité et envoyé en disgrâce en raison de ses idées libérales que ne pouvaient accepter les fanatiques berbères, dont le pouvoir grandissant se répandait comme une peste à travers toute l'Espagne arabe. Il fut envoyé en exil intérieur dans le petit village de Lucena, aux abords de sa ville natale, un village peuplé de juifs qui ne pouvaient plus dire qu'ils étaient juifs parce que la précédente dynastie régnante d'El Andalus, les Almoravides, les avait contraints à se convertir à l'islam. Ibn Rushd, philosophe qui n'avait plus le droit d'exposer sa philosophie, dont tous les écrits avaient été interdits et les livres brûlés, se sentit immédiatement chez lui parmi ces juifs qui ne pouvaient plus dire qu'ils étaient juifs. Il avait été le protégé du calife de la dynastie actuelle, les Almohades, mais les favoris passant de mode, Abou Youssouf, Yacoub, laissa les fanatiques chassés de la ville le grand commentateur d'Aristote. Le philosophe qui ne pouvait plus enseigner sa philosophie s'installa dans une modeste demeure aux petites fenêtres sises dans une ruelle dépourvue de pavés où il était terriblement oppressé par le manque de lumière. Il ouvrit une consultation médicale et son statut d'ancien médecin personnel du calife lui attira des patients. De plus, il employa les quelques ressources dont il disposait pour se consacrer à un modeste commerce de chevaux, tout en finançant par ailleurs la fabrique de grandes jarres, les tinajas, dans lesquelles les juifs qui n'étaient plus juifs conservaient et vendaient de l'huile d'olive et du vin. Un jour, peu après le début de son exil, une jeune fille d'environ 16 printemps fit son apparition devant sa porte, sans y frapper, ni rien faire d'autre pour interrompre le cours de ses pensées, se contentant de sourire gentiment et de rester là à attendre patiemment qu'il s'aperçoive de sa présence et l'invite à entrer. Elle lui raconta qu'elle était récemment devenue orpheline, qu'elle n'avait aucune source de revenus, mais qu'elle ne voulait pas travailler au bordel, qu'elle s'appelait Dounia, ce qui n'avait pas l'air d'un nom juif parce qu'elle n'avait pas le droit de donner son nom juif et qu'étant illettrée, elle ne pouvait l'écrire. Elle lui confia que c'était un voyageur qui lui avait donné ce nom, lequel venait du grec et signifiait « le monde ». L'idée lui avait plu. Ibn Rushd, le traducteur d'Aristote, ne voulut pas ergoter avec elle, sachant que ce nom signifiait « le monde » dans suffisamment de langues pour qu'il fût inutile de jouer les pédants. « Pourquoi avez-vous choisi de vous appeler d'un nom qui signifie « le monde » ?» Le regardant droit dans les yeux, elle répondit « Parce qu'un monde s'écoulera de moi, et ceux qui s'écouleront de moi se répandront à travers le monde entier. » En être de raison, il ne soupçonna pas qu'il s'agissait d'une créature surnaturelle, une djinnia de la tribu des djinns femelles, les djinniri, une grande princesse de cette tribu, engagée dans une aventure terrestre, cherchant à satisfaire sa fascination grandissante à l'égard des hommes en général et des plus brillants d'entre eux en particulier. Il l'accueillit dans sa maisonnette avec le double statut de femme de ménage et d'amante et dans le silence de la nuit, elle lui murmura à l'oreille son vrai nom juif, alias le faux, en lui disant que c'était leur secret. Dounia, la djinnia, était d'une fécondité aussi spectaculaire qu'elle avait prophétisé au cours des 2 ans, 8 mois et 28 jours. Et nuit qui suivirent, elle fut enceinte à 3 reprises, et chaque fois elle donna naissance à un grand nombre d'enfants, au moins 7, comme on peut le voir, et une fois 11, à moins que ce ne soit 19, car les récits sont aussi vagues qu'inexacts. Tous les enfants héritèrent de sa caractéristique la plus remarquable. Leurs oreilles n'avaient pas de lobe. Eût-il été un adepte des arcanes occultes, Ibn Rushd aurait compris que ses enfants étaient les rejetons d'une mère qui n'avait rien d'humain, mais il était trop préoccupé par lui-même pour s'en apercevoir. Et il nous arrive de penser que ce fut une chance pour lui et pour toute cette histoire que Dounia allait aimer pour l'éclat de son esprit, car il était peut-être d'un naturel trop égoïste pour inspirer l'amour de lui-même. Le philosophe qui ne pouvait plus philosopher craignait qu'il n'hérite de lui les tristes dons qui étaient à la fois ses trésors et sa malédiction. Avoir la peau fine, la vue perçante et la langue bien pendue, disait-il, c'est ressentir trop vivement, voir trop clairement et parler trop librement. C'est être vulnérable au monde alors que le monde se croit invulnérable. C'est comprendre son aspect changeant alors qu'il se croit immuable. C'est sentir avant les autres ce qui va se produire. C'est comprendre que l'avenir barbare est en train d'arracher les portes du présent tandis que d'autres se cramponnent au passé vide et décadent. Si nos enfants ont de la chance, ils n'hériteront que de vos oreilles, mais il est à craindre que, puisqu'ils sont incontestablement les miens, ils penseront probablement trop et trop vite, auront connaissance trop tôt de trop de choses, y compris de celles qu'il est défendu de penser ou d'entendre. « Raconte-moi une histoire », demandait souvent Dounia quand ils se couchaient au premier temps de leur cohabitation. Il découvrit rapidement qu'en dépit de son apparente jeunesse, elle pouvait se montrer exigeante et qu'elle avait des idées bien arrêtées, au lit comme ailleurs. Il était corpulent et elle avait l'air d'un petit oiseau ou d'un phasme, mais il avait souvent le sentiment que c'était elle la plus forte. Elle faisait la joie de ses vieux jours, mais exigeait de lui un niveau d'énergie qu'il avait du mal à maintenir. À son âge, quand il allait se coucher, tout ce qu'il souhaitait souvent, c'était dormir. Mais Dounia considérait ses tentatives pour se défiler comme des manifestations d'hostilité. « Si tu restes toute la nuit éveillée à faire l'amour, disait-elle, tu te sens vraiment beaucoup plus reposée que si tu ronfles comme un bœuf pendant des heures. C'est bien connu. » À son âge, il n'était pas toujours facile de se mettre dans des conditions requises pour accomplir l'acte sexuel. Surtout plusieurs nuits de suite. Mais elle voyait dans ses difficultés d'érection liées à l'âge la preuve de son manque d'amour. « Quand tu trouves une femme séduisante, il n'y a jamais de problème, lui disait-elle, peu importe le nombre de nuits d'affilée. Moi, je suis toujours excitée, je peux faire l'amour sans arrêt, je n'ai aucune limite. »
Vous écoutez Couleur FM.
Décédé le 28 mars dernier, Jim Harrison célèbre la terre, la pêche, l'alcool, la luxure, la lutte contre le racisme, le combat des Indiens ou les transcendances mystiques. Je vais vous lire le premier chapitre de son dernier livre, paru un mois après son décès, « Le vieux saltimbanque », traduit par Brie Mathieu Saint et paru chez Flammarion. Il entra par une porte, puis sortit par une autre, située 3 mètres en face de la première. Il avait transformé de fond en comble un ancien appartement de cheminot, abattant les cloisons et repeignant les murs. La proximité de ces deux portes lui plaisait. Elle lui donnait l'impression de pouvoir choisir, chose qui lui manquait cruellement dans son vieil âge. D'autres propriétaires, qui avaient réaménagé des appartements de cheminots, avaient bêtement condamné la porte supplémentaire avant de se convaincre qu'elle n'avait jamais existé. Quand, par pur caprice, il faisait des allers-retours dans le seul but de franchir successivement ces deux portes, il rendait complètement dingue son voisin, qui, pour sa part, habitait un coquet bungalow. Ce voisin était un universitaire à la retraite, un charmant érudit qui, après une vie consacrée à s'exprimer dans un langage châtié, adorait désormais parler vulgairement. L'homme ouvrait une bouteille de bon vin qu'il pouvait s'offrir grâce à sa retraite confortable, puis lui faisait signe de venir la partager. Il acceptait toujours, même après avoir rejoint les alcooliques anonymes pour sauver son mariage. Il découvrit que le bon vin accroissait son désir d'en savourer davantage, mais ne poussait jamais à la beuverie. Quand on buvait une demi-bouteille de Ducru Beau Caillou, on en voulait encore et rien d'autre n'aurait fait l'affaire. Surtout, pas le coup de fouet du whisky ni l'amertume de la bière. Il était ce qu'on appelait un poète couronné de prix, du moins selon ce que son éditeur faisait imprimer sur la jaquette de ses livres, alors qu'il n'avait jamais entendu parler d'aucun de ses prix avant de les recevoir. Voilà pour le caractère prétendument immortel de la poésie. Dans la salle d'attente, chez le médecin, il avait même consulté la liste des lauréats du prix Pulitzer dans The World Almanac et constaté avec stupéfaction le nombre faramineux d'écrivains du XXe siècle dont le nom ne disait plus rien à personne. En dégustant un bon Bordeaux, son vieux voisin retraité de l'université disait volontiers « L'ontogenèse résume la phylogénèse ». Comme s'il s'agissait d'une bonne blague sur l'obésité qui le faisait mourir de rire. Il se souvenait d'avoir déclaré la même chose dans un café avant de se faire virer de la fac. Sanction motivée par son arrogance, comme le lui avait annoncé le directeur du département. Les jeunes poètes, avant même de composer le moindre poème, cédaient volontiers à la vanité au lieu de se comporter en humbles étudiants. En tout cas, le département décida de lui décerner son master après qu'il eut publié son premier recueil de poèmes chez un prestigieux éditeur new-yorkais. Aucun étudiant du département n'avait jamais accompli cette prouesse. Ils furent fiers de lui, mais pas au point de l'autoriser à s'inscrire en doctorat. Pour ces gentlemen en tweed, la perspective de le voir se pavaner encore des années dans les couloirs était insupportable. Sa femme et lui n'avaient pas divorcé, mais elle habitait une grande ferme située à une quinzaine de kilomètres de là, en pleine campagne, non loin de Livingstone, dans le Montana. Elle s'était mise dans l'idée de trouver une maison en ville pour ses vieux jours, car elle en avait assez d'entretenir un vaste corps de ferme de 350 mètres carrés. Et puis, il avait recommencé à picoler, habitude dont il s'était pourtant débarrassé au début de la soixantaine. Au moins deux fois par semaine, il prenait sa voiture pour tenter sa chance et jouer avec les chiens, ce qui s'avérait souvent être une expérience décevante. Il faisait trop chaud et les chiens, qui à son arrivée lui réservaient un accueil triomphal, se remettaient à roupiller sur l'herbe épaisse de la pelouse au bout de quelques minutes de jeu. Il voulait jouer avec eux comme lorsqu'ils étaient chiots. Mais le fait est que ce n'étaient plus des chiots. À 10 ans, ils avaient à peu près le même âge que lui, 70. Quand il allait à la ferme, il dormait dans son studio, une petite cabane où il écrivait tout près de la grande maison. L'intérieur manquait d'élégance, mais ce cabanon lui convenait tout à fait. Il prenait des risques en conduisant car il n'avait plus le permis. Il s'était souvent fait la réflexion que la fin de son mariage avait coïncidé avec son retrait de permis. Il était furieux, car ce jour-là, il avait fait une erreur. Face au flic, il avait bêtement reconnu qu'il venait d'être opéré de la colonne vertébrale. Le flic lui avait demandé s'il prenait des médicaments contre la douleur, et il avait répondu « non, sans hésitation », mais on ne l'avait pas cru. En fait, les semaines qui suivirent son opération, il avait bien pris de l'oxycontin. Mais il avait ensuite arrêté malgré ses douleurs dorsales. Ce médicament rendait son écriture confuse et délirante. Il ne pouvait écrire de la sorte, même dans son journal, où il délirait déjà bien assez naturellement. Il souffrait aussi d'un zona depuis près de 3 ans, même si, après la disparition des plaies à vif, on parla plutôt de névralgie post-herpétique. Indépendamment du nom, il s'agissait de toute évidence d'une vraie saloperie qu'aucun médicament ne pouvait soigner. Il avait appris que les médecins méprisaient le zona et le traitaient comme une maladie non rentable, jusqu'à ce qu'eux-mêmes l'attrapent. Il n'y avait pas de téléthon pour le zona. Au service des véhicules motorisés, il avait fait un numéro haut en couleur et ils avaient gardé son permis quand il le leur avait donné. « Rendez-le-moi » avait-il crié. Par la suite, il envoya au gouvernement de l'État une lettre imprudente disant qu'il était l'auteur de « Légende d'automne », son livre le plus connu, qu'il avait besoin de conduire sa voiture et d'explorer des endroits nouveaux pour écrire et gagner sa vie. Il ne pouvait quand même pas rester assis chez lui et écrire « Légende de mon arrière-cour ». Cette lettre resta sans effet. Il prit son mal en patience et décida un beau jour qu'il était capable de conduire de nouveau. Il s'était attendu à ce qu'aucun événement notable ne trouble sa vieillesse. Mais qui a jamais entendu parler d'un gentleman blanc et chrétien comme lui, ayant perdu son permis de conduire et restant assis sous un pin au lieu de rejoindre en voiture un bar sympa situé en ville? Ce dont, bien sûr, il n'avait nullement besoin, un bar avec de vieux amis. Il détestait repenser au temps et à l'énergie qu'il avait vainement dépensé tout au long de sa vie à envisager d'arrêter de fumer et de boire pour d'évidentes raisons de santé. De temps à autre, et toujours brièvement bien entendu, il avait accordé un soin particulier à sa santé. Une fois, quand il vivait encore dans le Michigan, il perdit 13 kilos en 2 mois, à force de marcher 4 heures chaque matin, s'arrêtant quelquefois pour fumer une cigarette, comptant les oiseaux qu'il aimait, découvrant des endroits de la péninsule nord où il n'avait jamais mis les pieds. L'inconnu est toujours séduisant. Les premiers colons se demandaient sans arrêt ce qui se trouvait au-delà de la colline suivante, au-delà des autres collines. Daniel Boone doit sa réputation au fait qu'il a écumé le pays comme personne. Il a sauvé un village de la famine en allant tuer 10 cerfs et ours en un seul jour. De quoi nourrir tout son monde une bonne semaine. À l'époque où il grandissait dans le Michigan, son père, un bûcheron aguerri, lui avait mis du plomb dans la cervelle. « Quand tu te crois perdu, assieds-toi et calme-toi. » La panique entame ton énergie. Regarde comment les arbres ont tendance à pencher un peu vers le sud-est. C'est à cause des vents dominants et des immenses tempêtes qui viennent du nord-ouest et du lac supérieur. Quand le cargo Edmund Fitzgerald coula, le vent soufflait à plus de 150 à l'heure depuis 2 ou 3 jours. Il séjournait alors dans son chalet isolé et ne quitta pas l'abri de gros rondins. Il lut et écouta les arbres s'écrouler autour de lui. On les surnommait « faiseurs de veuves ». Il finit par quitter son chalet pour aller boire un verre bien mérité à la taverne. Longeant le lac au volant de sa voiture, il regarda les vagues géantes démolir la digue. Même dans son véhicule, il tremblait de peur. Les vagues tonnaient fort. Le plus grand chamboulement de son vieil âge fut la disparition à 70 ans de sa sexualité. Le médecin s'autorisa une remarque déplacée quand il lui expliqua le problème. Il se mit en colère et le médecin déclara que cela arrivait à tout le monde. Il y avait un banc devant l'hôtel de ville où les 5 mêmes croulants s'installaient tous les jours. Ce banc, on l'appelait le banc des bites mortes. Il existait désormais des médicaments disponibles et une blague courait à la taverne. Si tu as une érection de plus de 3 heures, va au bowling Starlight Always, le soir réservé aux femmes, et fais leur part de ton problème. Tu auras droit à une séance de gymnastique gratuite. Malgré tout, la perspective de prendre un comprimé pour bander lui laissait un goût amer. Il n'avait pu s'empêcher d'essayer une fois. L'année précédente, lors de la rencontre annuelle de la Modern Language Association à Washington, ville qu'il détestait pour des raisons politiques, mais qu'il tolérait quand elle accueillait de vieux amis écrivains. Il prit pour cible une étudiante en master à qui il avait fait l'amour des années plus tôt quand elle était en 2e année. Le prix à payer était la rédaction d'une lettre de recommandation dithyrambique pour le programme d'écriture créative de Hunter College à New York. Il accepta aussitôt ce marché. Elle était un peu potelée, mais avait eu autrefois un beau corps. Après avoir dîné et bien bu, ils rejoignirent la chambre du vieux poète au Mayflower. Elle était pressée car elle devait voir un ancien petit ami qui lui aussi enseignait l'écriture. Malheureusement, le comprimé donna une désagréable teinte vert foncé au mur gris de sa chambre et il jouit en 1 minute. Il s'excusa, puis elle partit très vite retrouver son ancien copain sans avoir transpiré. À sa grande surprise, il remarqua en regardant CNN qu'il bandait toujours. De toute évidence, un effet du médicament. Il sortit dans la rue en se disant qu'il rencontrerait peut-être une professionnelle acceptable, ce qui arriva à quelques rues de la Maison Blanche. Tous deux déambulèrent un moment en parlant musique, sujet qui lui mit la puce à l'oreille. Un ami médecin lui avait fortement déconseillé de coucher avec une prostituée qui fréquentait des musiciens, car il y avait un taux de sida très élevé chez ce genre de fille. Une fois encore, il s'excusa, lui donna $20 pour la parlotte, puis retrouva son hôtel et les 1000 profs d'anglais hébétés qui somnoleraient durant leur réunion du soir.
Color FM 97.1.
À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Jim Fergus, après son premier roman « Mille femmes blanches » suivi de « La fille sauvage », le voilà qui revient chez les Cheyennes avec « La vengeance des mères », traduit par Jean-Luc Pringre. Au Cherche Midi, en voici l'introduction. 1er mars 1876. Cette fois, tout est vraiment fini. Dès les premières lueurs du jour, telle la main vengeresse du Tout-Puissant, les soldats ont fondu sur nous. J'ai reçu un coup de feu. J'ai peur de mourir vite. Le village est détruit, incendié. Le peuple nu est parti se réfugier en courant dans les collines et se tapir sous la roche comme des animaux. Je ne sais où sont la plupart d'entre nous. Certaines sont mortes, d'autres encore vivantes. Je me suis réfugiée dans une petite grotte avec Feeder on Heat, Quiet One et Martin. Nous sommes blottis les unes contre les autres avec nos enfants, tandis que le village brûle en contrebas, semblable à un immense bûcher funéraire. Les soldats empilent tous nos biens, tout ce que nous avons. Peaux, fourrures, couvertures, réserves de viande et de nourriture, selles de chevaux, munitions, placent les cadavres par-dessus et embrasent le tout avec leurs grandes torches. Ils mettent pareillement le feu aux loges qui s'enflamment comme des arbres dans une forêt sèche. À l'intérieur, poudre et cartouches font des feux d'artifice. Tout ce que nous avions s'envole en fumée. Je suis blessée et crains de mourir bientôt. J'entends mon souffle rauque, des bulles de sang s'échappent de ma bouche et de mon nez. Tant qu'il me reste un peu de force, je vais continuer à écrire ce qui s'est passé. L'abbaye Saint-Antoine du désert, Powder River, Montana, 15 novembre 1926. La nuit suivant la charge de Mackenzie, le thermomètre indiquait presque moins 20 degrés. La cavalerie s'était emparée à l'aube du village Cheyenne qu'elle avait entièrement détruit, massacrant des dizaines d'Indiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, abattus sans discrimination, à coups d'épée, de carabines, de pistolets, par des soldats pris de folie meurtrière. Plusieurs de nos amis blanches étaient parmi eux avec leurs bébés. Celles et ceux qui réussirent à leur échapper prirent la fuite vers les collines, certains grièvement blessés, certains à peine vêtus, sans rien pour les protéger des éléments, eux-mêmes et leurs enfants. Bien que dans un état grave, le grand chef de la douce médecine Little Wolf conduisit les membres encore vivants de sa bande en harde à travers les montagnes jusqu'au village du guerrier Lakota Crazy Horse. Je les suivis et fit tout mon possible, bien peu vu les circonstances, pour assister ces malheureux et soulager leur peine. Ces 2 semaines de marche furent un véritable chemin de croix. 11 bébés Cheyennes moururent de froid. La première nuit dans les bras de leur mère, 3 encore la nuit suivante, et tous les enfants de sang mêlé qui avaient survécu jusque-là périrent. Les 2 sœurs irlandaises, Margaret et Susan Kelly, perdirent chacune leurs 2 jumelles au cours de ce voyage exténuant. Les voir affligées au supplice avait de quoi vous déchirer le cœur. Elles me maudirent et maudirent notre Seigneur bien-aimé de leur avoir pris leur petite fille. Avec Martha Atwood, les sœurs Kelly sont les 2 seules femmes blanches de la tribu qui, à ma connaissance, ont réchappé à l'assaut de Mackenzie et à ses conséquences désastreuses. Au fil des ans, j'ai mené plusieurs enquêtes pour tenter d'apprendre ce qu'elles étaient devenues et n'ai recueilli à chaque fois que de sombres rumeurs. je n'ai jamais su véritablement ce qui leur était arrivé. Que Dieu les bénisse toutes deux. Martha Atwood Tanglehair, officiellement l'unique épouse du programme Femmes Blanches pour les Indiens, qui n'ait pas perdu la vie ce mois-là, est revenue à Chicago avec son fils baptisé Todd, en l'honneur de May, l'ami chère de Martha. Je n'ai jamais revu Martha, mais pendant de nombreuses années, nous avons entretenu une correspondance. Dans sa toute première lettre, elle m'informait qu'elle avait remis le dernier message de May Dot au capitaine John Bourke. Cependant, elle évita par la suite d'évoquer toute l'affaire, qu'il s'agisse du FBI ou du massacre épouvantable qui, définitivement, y a mis un terme. Je n'ai jamais su non plus quel accord l'État américain avait conclu avec elle pour qu'elle garde le silence à ce sujet. Un moine n'a pas à poser de telles questions. En tout cas, elle a tenu parole. Ce silence, elle l'a gardé, d'après le codicille de l'abbé Anthony de la Prairie. Introduction J.W. Dot 3. Rédacteur en chef Chi-Town Magazine, Chicago, Illinois, le 14 mai 2015. Mon nom entier est John William Todd III. La plupart des gens m'appellent J.W. pour me distinguer de mon père, Feu G. Will Todd, ou Will pour les intimes. Je suis actuellement rédacteur en chef du magazine local Chi-Town, propriété de ma famille, qui en assure aussi la direction. Mon père y a exercé les mêmes fonctions que moi pendant 34 ans jusqu'à sa récente disparition. Les lecteurs se rappelleront l'homme qui a découvert et publié « 1000 femmes blanches », les journaux de May Todd, sous forme de roman feuilleton dans ce même magazine, il y a aujourd'hui plus de 15 ans. À l'époque, ces journaux ont suscité bien des controverses dans le monde universitaire. Des diverses facultés du pays, des professeurs d'histoire indignés les ont purement et simplement taxés de faux. Selon les lettres qu'ils ont envoyées à la rédaction, l'échange dont il est question et qui fournit la base du récit, à savoir les 1000 chevaux troqués par les Cheyennes contre 1000 femmes blanches, n'aurait jamais eu lieu et il n'existerait aucune preuve historique de son existence. Mon père, qui a rédigé lui-même l'introduction du roman, n'a jamais répondu directement à ses critiques. Pour lui, la découverte et la publication des journaux de May étaient un acte d'amour, l'œuvre d'un homme qui se sentait responsable envers sa famille. Il avait tenu à établir toute la vérité concernant la vie et la mort de son arrière-grand-mère, à exposer les torts causés à celle-ci par ses propres parents, à lui donner la place qu'elle mérite dans notre saga. Papa se fichait bien que les profs contestent l'authenticité de ses carnets. Pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas l'histoire, en 1875, May Todd, âgé de 23 ans, a été enlevé en pleine nuit dans sa maison de Chicago. Séparée de force de ses deux jeunes enfants, elle a été internée par ses parents à l'asile de fous de Lake Forest, pour le seul crime d'être tombée amoureuse d'un homme d'un rang inférieur au sien. Selon la version officielle, elle est décédée environ un an plus tard, en février 1876, dans le même établissement et dans des circonstances demeurées secrètes. Il existait cependant une autre version, beaucoup plus romantique, de sa courte existence. Une mystérieuse légende transmise à voix basse de génération en génération, selon laquelle elle ne serait pas du tout morte à l'asile. Bien au contraire, elle se serait échappée pour partir à l'ouest vivre avec les Indiens. Une formule qui, au fil des ans, était devenue à la maison un euphémisme courant d'insanité. Désireux d'en savoir plus, mon père a entamé des recherches qui l'ont conduit à la réserve indienne de Tongue River, dans le sud-est du Montana. C'est là que l'automne 1996, plus de 125 ans après leur rédaction, la petite fille Cheyenne de May Todd, May Shallow Wild Plums, lui a offert ses carnets extraordinaires. Jeune garçon, j'ai eu la chance d'accompagner papa lors de ses nombreux voyages dans les grandes plaines, alors qu'il reconstituait les journaux de May. Je projetais déjà de jouer un rôle dans l'entreprise familiale et d'embrasser moi-même une carrière dans le journalisme. Je dois, pour une bonne part, à mon père, passionné par le sujet, le vif intérêt que j'éprouve à mon tour pour la cause des Indiens, leur passé tragique, leur présent difficile, leur avenir incertain. Papa était le descendant de May, mais également un homme d'une honnêteté foncière, considéré dans la réserve comme un ami fiable, ce qui n'est pas un mince exploit pour un blanc. Nous avons fréquemment séjourné là-bas, logeant des semaines à la suite dans notre caravane Airstream, et nous avons noué des liens avec plusieurs membres de la tribu. Nous avons même parfois été invités dans la loge à Sué et aux cérémonies de la danse du soleil. Je me suis fait quelques amis parmi les jeunes Cheyennes, cependant beaucoup entretiennent une vive méfiance à l'égard des Blancs que, de façon bien compréhensible, ils ne portent pas dans leur cœur. Je me suis plusieurs fois disputé avec eux à ce sujet. Comme il arrive souvent dans notre profession, la publication des journaux de mes dotes marquait la fin d'une histoire et le début d'une autre. L'abbé Anthony de la Prairie, que May et ses amis appelaient frère Anthony, était un jeune bénédictin qui accompagnait les femmes blanches et les Cheyennes. Elle le cite à maintes occasions dans ses journaux, notamment lors de ce matin glacial de l'hiver 1876, où la cavalerie américaine, sous les ordres du colonel Ranald Mackenzie, a attaqué le camp de Little Wolf. Dans son codicille, écrit exactement un demi-siècle après cette journée fatidique, l'abbé parle des trois femmes blanches qui ont survécu au massacre sans être très sûres de ce qu'elles sont devenues par la suite. Il s'agit des jumelles irlandaises Maggie et Susie Kelly et de Martha Atwood, une ancienne employée de l'asile de Lake Forest qui avait aidé May à s'échapper de cet horrible établissement. Si aujourd'hui, selon les conventions existantes, une charge de cavalerie contre des civils occasionnerait sûrement des poursuites devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou génocide, la chose s'inscrivait à l'époque dans la stratégie officieuse, mais communément acceptée, du ministère de la guerre des États-Unis, qui se proposait d'exterminer la population native afin de libérer les grandes plaines au profit de l'envahisseur blanc. La colonisation de l'Amérique est jonchée de tristes épisodes de cette sorte. Il y a 6 mois, quelques semaines seulement avant son départ à la retraite, mon père a eu un très grave AVC. Il est mort 3 jours plus tard à l'hôpital Passavant de Chicago. En prévision de son départ, il m'avait confié la direction éditoriale du magazine afin d'adapter celui-ci à l'ère numérique, un monde incompréhensible et vaguement intimidant pour sa génération de dinosaures de l'imprimé, comme il se qualifiait lui-même. Cela faisait déjà pas mal d'années que je travaillais pour Chai Town. Tout d'abord comme coursier et magasinier pendant les vacances quand j'étais encore au collège. Par la suite, pendant mes années de lycée et de fac, j'ai exercé les différentes fonctions de correcteur, assistant rédacteur, journaliste, salarié et finalement chef de service. Un après-midi, 10 jours seulement après sa disparition, une secrétaire m'a envoyé un SMS pour m'informer qu'une jeune femme demandait à me voir à la réception. Son nom, lui ai-je retourné par un autre texto, ne veut pas le dire, bizarrement habillée. Comment ça, bizarrement? Comme une indienne. Des Indes ou d'ici? USA. Que veut-elle? Elle dit qu'elle vous connaît, veut vous donner quelque chose. Elle a 2 vieilles sacoches en cuir avec elle, des sacoches de sel très vieilles. Et elle est arrivée à cheval? J'appelle la sécurité, chef. Je vous ai dit de ne pas m'appeler comme ça, Chloé. Non, j'arrive. Thank you.